France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Les soignants se disent épuisés et appellent à sauver l'hôpital public en France. Ce jeudi, des manifestations sont prévues un peu partout dans le pays et cela va bien au-delà de la grève des urgences démarrée au mois de mars dernier. Tous les corps de métier sont invités à manifester pour dénoncer les conditions de travail, le manque de lits et de moyens. Le gouvernement, lui, promet un nouveau plan en faveur des urgences d'ici la fin du mois. Depuis juin, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a déjà annoncé une rallonge de 750 millions d'euros sur 3 ans. Autre colère, celle des étudiants contre leur précarité. Le gouvernement reçoit aujourd'hui et demain leurs représentants syndicaux. Gabriel Attal, secrétaire d'État en charge de la jeunesse, va se charger de ces rendez-vous. Rendez-vous pris après les grands rassemblements de mardi dans une quarantaine de villes et les blocages des universités. Hier d'ailleurs, l'université Lyon 2 est restée fermée et les étudiants ont été évacués dans la soirée. Cette colère a été déclenchée vendredi soir lorsqu'un jeune homme s'est aspergé d'essence avant d'y mettre le feu devant le Crous de Lyon. Il est brûlé à 90%. Alors que les différends entre les États-Unis et la Turquie sont nombreux, les deux présidents font mine de s'entendre. Donald Trump a assuré être un grand fan de Recep Tayyip Erdogan, qu'il a reçu hier à la Maison Blanche. Il est toutefois resté très évasif sur l'offensive militaire turque débutée il y a un mois en Syrie. Et pendant ce temps-là, au Congrès américain, se tenaient hier les premières auditions publiques dans l'enquête en vue de l'éventuelle destitution de Donald Trump. Un diplomate américain a ainsi déclaré hier qu'un canal diplomatique irrégulier avait été mis en place avec l'Ukraine. Une chasse aux sorcières, a encore répondu le président américain qui précise être trop occupé pour regarder ces auditions. Soulignons enfin qu'à Hong Kong, les manifestants pro-démocratie ont intensifié leurs actions, multipliant hier les foyers de protestation pour paralyser l'ancienne colonie britannique. Des centres commerciaux, des écoles et des stations de métro sont fermés.
Un éclairage quotidien, les enjeux internationaux sur France Culture. Julie Gacon.
Chaque matin, un éclairage sur un fait de l'actualité internationale, le monde exploré à toutes ses échelles, du local au global. 10 minutes avec un chercheur, une chercheuse, pour renouveler notre regard sur le monde, resituer un événement dans sa perspective historique, évaluer sa portée et en imaginer l'avenir.
Les enjeux internationaux, de lundi à vendredi à 6h45 et sur franceculture.fr. Chaque jour à 18h20, c'est le temps du débat sur France Culture. Emmanuel Laurentin.
Depuis 8 mois maintenant, de nombreux services d'urgence d'hôpitaux sont en grève, rejoints récemment par de nouveaux personnels hospitaliers. Alors que la police et l'éducation sont aussi en crise, l'hôpital apparaît comme un étendard de la défense du service public. Est-ce le cas? Et si oui, pourquoi? C'est la question que pose le temps du débat.
Le temps du débat, ce jeudi à 18h20 et sur franceculture.fr.
Vous écoutez France Culture, il est 6h03. Nous commençons cette journée en musique grâce à Tofik Hakem.
Le réveil culturel. Tofik Hakem.
Bonjour et bienvenue dans le Réveil culturel, l'actualité de la pop culture, tôt le matin à la radio ou quand vous voulez en passant par l'écoute en ligne ou l'abonnement au podcast disponible sur l'application Radio France par exemple ou encore en quelques clics à partir de la page franceculture.fr. Corinne Amar et Cyril Marchand à la coordination, Vincent Abouchard à la réalisation, avec ce matin la prise de son Jordan Fuentes. Tous les jeudis, c'est l'actualité de la musique et aujourd'hui, mon invité est Elliot Murphy, chanteur, auteur, compositeur rock et folk américain qui vit à Paris depuis 1989, ça veut dire tout rond 30 ans, c'est bien ça?
Oui, c'est ça.
Bonjour Elliot Murphy.
Bonjour.
Alors si l'Amérique vous a quelque peu délaissé, vous avez conservé au moins outre-Atlantique l'estime et l'amitié du boss, votre ami ami Bruce Springsteen. Ce qui n'est pas rien. En France et ailleurs dans le monde, Elliott Murphy a, comme on dit, son public qui le suit avec ferveur depuis des années. Il est l'invité de marque de l'Écho des Riffs, le festival des musiques blues, jazz et world d'Avignon qui s'ouvre demain et ce jusqu'au 23, jusqu'au concert final avec vous, Elliott Murphy. Et on va avoir l'occasion de parler de votre nouvel album, Ricochet, sorti le mois dernier, qui comporte 11 titres et 3 reprises de chansons emblématiques de Bob Dylan, Bruce Springsteen, bien sûr, et Tom Petty. Ok, c'est un peu old school, mais c'est good school. Ancienne école, sûrement, mais la bonne école, assurément.
Le réveil culturel. Jeudi, musique.
Voilà, c'est bien de se réveiller avec de la proteste son, comme on ne le dit plus de nos jours d'ailleurs.
Oui.
Alors, je ne vais pas traduire le titre, je suis prude, vous le savez très bien. What the fuck is going on? Mais on va répondre à la question, Elliott Murphy. Vous avez écrit cette chanson alors que le monde était en crise.
Exactement, j'ai écrit cette chanson pendant la dernière crise économique, 2008. Et toutes les choses tombaient, je ne comprends rien du tout, comme 90% de le monde, mais c'est vraiment à propos d'aujourd'hui aussi, je pense, le même thème.
Protest song, ça existe encore en Amérique? Quoique vous n'êtes pas la bonne personne à qui il faut poser cette question, puisque l'Amérique, vous l'avez quittée il y a 30 ans.
Oui, peut-être, mais je suis plus français d'Américain. Je connais le politique français mieux que la politique américaine. Mais je pense qu'il existe. Mais le rock music, c'est très peu aux États-Unis maintenant. C'est le pop et le hip-hop, pas beaucoup de rock. Mais quand j'ai commencé mon carrière dans les années, le début des années 70, le protest chanson comme Blowing in the Wind, tout ça, c'est une grande inspiration.
Qu'est-ce qui fait que vous allez quitter très vite les États-Unis pour vous installer en France? Enfin, très vite, non, puisque vous avez commencé en 1973.
Oui.
Premier album, d'ailleurs, unanimement salué. On vous prédisait même une carrière à la Bob Dylan.
Oui.
Et qu'est-ce qui fait qu'en 1989, vous décidez de venir en France et de quitter l'Amérique?
c'est le bon moment. I mean, je ne sais pas. J'ai fait mon premier concert en France en 79, mm-hmm. à Le Palace.
Oh, Palace, ouais.
Palace à Paris. Et vraiment, cette concert, ça change ma vie. Parce que j'ai aucune idée, j'ai un public fidèle en France. Avant ça, je tombe pour un public de 100 personnes, 150, mais le salle était plein. Plein, je fais 6 rappels, je pense trop. Mais entre 79 et 89, mon career, ça bouge complètement dans l'Europe, dans la France, Italie, Espagne, et j'adore Paris. Je suis comme Josephine Baker, j'ai 12 amours. Mon pays est Paris.
Qu'est-ce qui reste de votre amour de l'Amérique, Elliott Murphy? Well, vous y retournez souvent? Vous enregistrez encore là-bas ou...
Oui, j'étais juste là-bas pendant le septembre, il y a deux ou trois mois. Et c'est bizarre parce que je visite New York et après je visite Montréal. Et j'ai le sens que je suis plus chez moi à Montréal de New York. Parce que tout le monde parle français. Mais toutes mes racines culturelles, musicales, littéraires, c'est vraiment américain. I mean, ça, c'est... J'ai jamais oublié ça.
Vous êtes tombé dans le rock tout petit, Elliott Murphy, ou c'est votre amour de la guitare qui vous a mené dans les chemins du rock et de la folk?
Oui, exactement, c'est ça. Je commence la guitare à l'âge de 12 ans avec mon mère. Je prends les lessons avec elle.
Sur quel genre de partition de musique?
Ah,
qu'est-ce qu'elle vous faisait jouer, votre mère, Elliott Murphy?
C'est le folk music traditionnel. She'll be coming round the mountain when she comes. I mean, la chanson comme ça. Et, je tombais amoureux avec la guitare tout de suite. C'est une longue, longue affaire.
Et vous avez eu votre mère comme professeur et c'est tout? Ou vous avez eu une autre formation musicale par la suite?
Non, parce qu'aujourd'hui, c'est très facile pour trouver toutes les techniques de rock and roll sur l'Internet. Mais comme quand j'ai commencé dans les années 60, il n'y a rien de le rock. C'est très difficile de trouver un professeur de musique qui connaît la musique de rock. Donc c'est juste une question de... Je prends le disque, j'écoutais 1000 fois pour apprendre les cordes.
Donc tout seul, autodidacte.
Tout seul, oui. C'était la seule solution, oui.
Ouais. Est-ce que la chanson protestataire, le rock protestataire, a été votre choix initial dès le début?
Non, vraiment, c'est pas mon... À le début, c'était le surf music, Beach Boys.
Surf music,
ouais. Oui, parce que je suis un surfeur, Long Island surfer. Côte Est surfer, c'est 3 mois de surfing et 9 mois, regarde le film de surf, parce qu'il fait froid.
Bah oui, c'est pas dangereux.
Non, pas dangereux. Mais surf music, et le rock instrumental music, comme The Ventures, mais et aussi il y a une sorte de folk boom. À le début des années 60, le Kingston Trio, Peter, Paul and Mary, le groupe comme ça. Le folk boom, c'était 2-3 ans, le folk music revient très fort aux États-Unis. Avec Dylan un peu, mais le plus commercial groupe comme Kingston Trio, Peter, Paul and Mary. Mais après, les Beatles, ils arrivent et ça change toutes les choses.
Vous vous souvenez de vos premières scènes, Elliott Murphy? Comment vous avez commencé? Comment vous vous êtes lancé jusqu'à enregistrer cet album mémorable et historique en 1973?
Mon premier...
album en 73, que vous avez fait avant?
Oui. Oh, avant, je jouais dans toutes les petites boîtes à Long Island. Tous les petits clubs.
Ça ressemblait à quoi, Long Island, à cette époque?
C'est un peu... Well, Long Island et New Jersey, c'est les deux grands banlieues de New York City. Mm-hmm. New York City, c'est comme le Land of Oz, pour ça. Mais c'était le banlieue, middle class, c'est ça. Mais il y a beaucoup, à cette époque, il y a beaucoup de clubs. On peut jouer, fait comme 6, 7, 8 séances par nuit. Beaucoup de chansons, et ça, c'est vraiment mon apprenticeship, mon stagiaire dans le monde rock.
Et vous avez chanté tout de suite ou vous avez d'abord été guitariste avant?
Exactement, oui. Ouais. Je suis un guitariste, mais toujours, avec tous mes groupes, je chante une chanson, Like a Rolling Stone, de Bob Dylan. Donc ça, c'est... Et après, je fais mon premier voyage en Europe en 71. Et je commence à jouer dans le métro, dans la rue, dans le restaurant. Je joue dans le métro en Paris et je commence à chanter.
Mais alors, quand vous jouez justement dans les stations de métro, c'était aussi un choix de vie pour vous, Elliot Murphy? C'était vivre la vie d'un Américain bohème à Paris?
Ah oui, parce que bon, j'adore la littérature de la Lost Generation américaine, les écrivains comme F. Scott Fitzgerald ou Ernest Hemingway, Gertrude Stein, Henry Miller, après, qui habitent à Paris, ça c'est. Et j'essaie de suivre le trace de
C'était l'époque où vous ne saviez toujours pas s'il fallait faire de la littérature ou de la musique. À quel moment Elliot Murphy, vous qui avez écrit des livres, hein, vous avez écrit des nouvelles, vous avez aussi écrit des livres très importants sur la musique, sur votre parcours musical, à partir de quel moment vous décidez que c'est la scène rock qui va prendre l'essentiel de votre vie, qui va prendre le dessus sur la littérature?
Ah oui, c'est vraiment un choix entre le guitare ou le typewriter, la machine à écrire, c'est ça. You know, vraiment, literature est mon religion, mais le rock and roll c'est mon addiction.
Et Bob Dylan, c'est votre prophète ou c'est votre rival ou c'est ce géant qui vous a fait tant d'ombre?
Ouais, bah, pas juste pour moi, mais c'est vraiment Bob Dylan qui a ouvert la porte pour toutes les paroles intéressantes, toutes les poésies dans le rock. C'est lui qui a ouvert la porte pour ça.
Et dans Ricochet, votre dernier album, Elliot Murphy, vous reprenez une des chansons emblématiques de Bob Dylan, le Bob Dylan des années 90 néanmoins.
Fat man looking in a plate of steel. Thin man looking at his last meal. Hollow man looking in a cotton field for dignity. Wise man looking in a blade of grass. Young man looking in the shadows that pass. Old man looking through painted glass for dignity. Somebody got murdered on New Year's Eve. Somebody said dignity was the first to leave. I went to the city, went into the town, went into the land of the midnight sun. I'm searching high, I'm searching low. I'm searching everywhere I know. Asking the cops wherever I go. Blind man breaking out of a trance. Put both his hands in the pockets of chance. Hoping to find one circumstance of dignity. I went to the wedding of Mary Lou. She said, I don't want nobody to see me talking to you. Said she could get killed if she told me what she knew about dignity. I went down where the vultures feed. I would have got deeper, but there wasn't any need. Heard the tongues of angels and the tongues of men. Wasn't any difference to me. Chili went sharp as a razor blade. House on fire, debts on pay. Gonna stand at the window, gonna ask the maid.
Cette reprise de Bob Dylan, Elliot Murphy, figure dans votre dernier album, Ricochet, mais vous l'avez chanté de nombreuses fois sur scène.
Dignity. Oui, beaucoup de fois.
Pourquoi cette chanson précisément de Bob Dylan?
D'abord, c'est une bonne chanson, c'est un bon rythme, un bon. Le parole, c'est vraiment intéressant, c'est. Un peu de si Dignity était un personnage.
Si la dignité était un personnage.
Et Bob Dylan cherche pour ce personnage partout. Oui, c'est ça.
Le fait de reprendre Bob Dylan ou même Bruce Springsteen, c'est-à-dire des gens qui sont de votre génération, et Elliot Murphy pour Bruce Springsteen, mais enfin qui était là à vos débuts,
oui.
Et l'un et l'autre en dit le plus grand bien de vous d'ailleurs, mais de rendre hommage à des gens qui eux-mêmes vous aiment beaucoup, mais qui vous ont pas laissé la place de vous exprimer.
Mais d'abord, je dois dire, Bob Dylan, c'est une autre génération. Il est vraiment avant
oui, bien sûr.
Moi et Bruce. Mais je commence avec Bruce comme nous sommes tous, et Tom Petty un peu aussi, nous sommes tous le new Bob Dylan.
Ouais.
À le début des années 70. Mais c'est mon generation, j'ai beaucoup de respect pour...
C'était pas trop pesant, justement, d'avoir commencé sa carrière à l'ombre de Bob Dylan, que toute la presse vous présente comme les nouveaux Bob Dylan?
Non, je pense pas. Toujours, beaucoup de fois, les gens demandent ça, mais je pense tout le new Bob Dylan,
ouais,
il est toujours travail. Donc, c'est peut-être une garantie de le travail pour la vie. Avec moi, Bruce Springsteen, Tom Petty, well, le pauvre Tom, John Prine, il y a beaucoup d'autres, Loudon Wainwright. Mais le truc intéressant, nous sommes tous les new Bob Dylan, mais je pense mon musique et la musique de Bruce et l'autre, il n'est pas ressemble les autres.
C'est différent, chacun essaye de se démarquer.
Oui, c'est différent, mais dans les années de mon premier disque, Bob Dylan, il n'était pas très, très actif. Il a fait un peu de country, self-portrait, et donc tous les gens, tous les critiques, ils cherchent pour le new Bob Dylan dans le monde rock.
Et vous, avec votre premier album, qui est un album légendaire, Aquashow,
oui,
maintenant,
Aquashow,
en 1973,
oui,
vous étiez donc considéré comme un nouveau Bob Dylan. Est-ce que, à ce moment-là, vous essayez, comme va le faire plus tard Bruce Springsteen, mais de se démarquer très vite de Bob Dylan, ou est-ce que la référence vous plaît suffisamment et que vous adhérez aussi bien à la démarche artistique que politique de Bob Dylan et que vous acceptez qu'on vous compare à Bob Dylan, quoi?
Oui, mais j'acceptais prendre la couronne sur ma tête.
Ouais, mais la couronne, elle devait être dure, non, Edith Murphy?
Le vrai problème, c'était Aquashow. Quand je sais, c'était mon premier disque. Mm-hmm. Mais la comparaison, c'était Aquashow avec le disque Highway 61 ou Blonde on Blonde. C'était le cinquième disque de Bob Dylan, le sixième disque de Bob Dylan. Mais qu'est-ce que je fais maintenant, après ça? Mais c'est impossible de faire mieux de ça. Donc ça, c'était le problème pour essayer de trouver mon identité personnelle. Je suis juste 24 ans, oui, j'étais jeune.
Et vous êtes allé du côté de la littérature de la Beat Generation, bien sûr, pour retrouver votre inspiration. Kerouac, par exemple, très très présent dans vos références, Elliot Murphy, mais aussi Arthur Rimbaud.
Rimbaud, oui. Mais Rimbaud, pour tous les rockers de mon génération, Rimbaud était très spécial. D'abord, il existe une très bonne traduction.
D'Arthur Rimbaud?
De Arthur Rimbaud.
De la poésie de Rimbaud, oui.
Oui, aux États-Unis. Je pense que la traduction de Rimbaud, c'était mieux que la traduction de Baudelaire ou Verlaine.
Pour vous, le rock, c'est quoi? C'est d'abord de la musique, l'énergie de la musique, ou les paroles ont un rôle prédominant?
Oh, pas les paroles, parce que 90% de les paroles de le rock, c'est vraiment pas très inspirational dans mon vie. C'est toujours le falling in love, falling out of love, wishing someone loved you, they don't love me, just continuer comme ça. Mais le rock, c'est l'énergie. Ça, c'est le plus important, oui.
Alors justement, vous, Elliot Murphy, quand Bruce Springsteen passe en France, il vous invite parce que vous êtes amis, donc vous vous retrouvez dans des stades, face à un public hyper nombreux, ce sont des dizaines de milliers de fans qui viennent le voir à ses concerts. Et puis ensuite, le lendemain, le surlendemain, vous retrouvez votre public fidèle des petites salles du New Morning.
Oui.
Ça fait quoi, justement, de passer d'une grande scène à un petit club, Elliot Murphy?
C'est complètement différent. Et la même chose, en revanche, c'est complètement la même chose. Le premier rang, ouais, dans le Stade de France, c'est le même de le premier rang à New Morning. C'est ça. Mais quand je jouais là-bas, c'était très intéressant pour moi parce que je suis dans la loge avec Bruce avant le concert. Et Bruce, il demande si je voulais chanter quelque chose avec lui et le E Street Band. Et j'ai dit, bien sûr. Mais quelle chanson? Il dit, ouais, Born to Run. Elle dit, oh, Born to Run, ça c'est compliqué, c'est comme une symphonie de Beethoven, comme ça. Mais mon fils était avec moi, Gaspard. Et Gaspard, il dit, n'inquiète pas, daddy, je connais cette chanson. Et Bruce, il dit, Gaspard, you know that song, you come on stage too. Tu connais cette chanson, tu, sur la scène aussi. Donc je suis là-bas avec Bruce et mon fils. Donc, vraiment, je ne regarde pas beaucoup le public ou le Stade de France ou les 80 000 personnes. Je regarde mon fils et Bruce.
Avec quels musiciens vous tournez, Elliot Murphy? Est-ce que ce sont les mêmes depuis des années?
Aujourd'hui, les fidèles Olivier Durand.
Bien sûr.
C'est mon guitariste depuis 24 ans. Oui, il habite au Havre. Et aussi Alan Fatras, un autre Havre, qui joue la batterie sur le violon. C'est Melissa Cox, australienne, qui habite en Paris. Et mon fils, Gaspard Murphy, sur la basse. Et Lucien Fayard, sur le clavier. Et son père, il est joué avec Brassens.
Avec Brassens, ouais. Et tout ça pour faire du rock.
Oui.
Comme à l'ancienne. Et du coup, vous êtes plutôt sur un registre de nostalgie ou pas, Elliot Murphy?
Non, je ne suis pas très nostalgique. Je regarde le futur. Pour moi, si le rock n'est pas très commercial à ce moment, pour moi, c'est vraiment quelque chose vrai. La vérité, le rythme, l'émotion, je suivais la rivière de rock and roll toute ma vie et c'est pour ça que je suis avec toi aujourd'hui.
Et elle mène, vous pensez qu'elle va mener où, cette rivière du rock'n'roll? Vous pensez qu'il va y avoir un renouveau du rock, qu'on va revenir un peu sur ce qui a marqué votre jeunesse, Elliot Murphy? Ou vous pensez que c'est intimement lié à vos 20 ans et qu'il faut vivre avec, qu'il faut traverser la vie avec, mais que c'est déjà du passé, le rock?
Oui, mais le rock'n'roll, il est beau. Tous les éléments de rock, il existe dans la musique actuelle. Comme même dans le hip-hop, le pop, il y a tous les éléments de rock, la batterie, le guitare. Si le rock and roll revient pour le grand public, je ne sais pas. Je ne sais pas.
Et il y a même la reprise donc de ce morceau de Tom Petty. En hommage à Tom Petty, je suppose.
Ah oui, oui. J'adore Tom Petty. Il est le blond de la côte ouest. Je suis le blond de la côte est. Tom Petty et son groupe, Mike Campbell, le guitariste. C'était énorme. Oui.
Et le rock en France, pour vous, quand vous écoutez des rockers français?
Pour moi, d'abord, c'était Johnny Holiday.
D'accord.
Johnny Holiday, j'ai le grand plaisir, je rencontre Johnny juste un an avant sa mort. Il est un mec très naturel et très honnête. Il me dit, Elliot, tu sais, j'ai deux héros dans le rock and roll. Elvis, bien sûr, et Bruce Springsteen. Et Johnny, il me demande si c'est possible pour moi aider pour faire un duet avec Bruce Springsteen. Mais j'ai dit peut-être, et la prochaine fois j'ai vu Bruce, j'ai dit quelque chose, mais il dit oui, pourquoi pas, mais malheureusement Johnny il est disparu.
Et pourquoi vous ne faites pas un duo avec Bruce Springsteen?
Parce que je pense qu'il connaît, c'est un pote de moi, je connais Bruce très bien, oui.
Et alors? Vous allez chanter peut-être un jour avec lui?
Oui, peut-être. Bon, l'idée c'est pour le duet Bruce et Johnny avec mon chanson Rock Ballad. Ça, c'est mon nom. Mais malheureusement, il ne passe pas.
Le titre de votre album, c'est Ricochet. Pourquoi?
Ricochet, parce que tous les 14 chansons sur ce disque, c'était enregistré pour un autre disque à gauche à droite. Mais enfin, il arrive ici, le même disque Ricochet.
Merci d'être passé ce matin.
Merci. Found my place. I can only thank God it was not too late. I can only thank God it was not too late. I can only thank God it was not too late.
Elliot Murphy sera sur scène à Avignon le 23 novembre dans le cadre du festival L'Écho des Riffs. Son dernier album Ricochet est disponible sur toutes les plateformes. Merci de vous réveiller de plus en plus nombreux avec France Culture. On se retrouve demain à la même heure.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
James Ellroy est à Radio France, le lundi 18 novembre, en public, au Studio 104. À 20h, le maître du roman noir américain est l'invité de Laura Adler pour L'Heure Bleue. À 21h, Requiem for Danny, opéra radiophonique librement inspiré du roman The Big Nowhere, avec le big band de Jean-Louis Marchand et la participation exceptionnelle de James Ellroy. Réservation, maisondelaradio.fr. Requiem for Danny, un disque collection signature Radio France. En partenariat et en direct sur France Inter.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Les syndicats étudiants seront reçus aujourd'hui et demain par le gouvernement. Ils vont y exprimer la colère dans les universités autour de la précarité étudiante. Et ils sont soutenus par certains présidents d'universités, vous l'entendrez. Nous irons ensuite en Allemagne, qui entre ce matin en récession technique. Et puis nous nous pencherons dans ce journal sur le cas de milliers de Syriens de retour chez eux, victimes de violences et de menaces de la part du régime de Bachar el-Assad. Ils pensent à repartir en Europe. Le gouvernement français va donc recevoir sur 2 jours les syndicats étudiants, aujourd'hui et demain. Le rendez-vous intervient après les grands rassemblements d'avant-hier contre la précarité, après les blocages de certaines universités et les violences déclenchées par l'immolation par le feu d'un étudiant lyonnais, c'était vendredi dernier. Des violences condamnées par de nombreux politiques ces dernières heures. Gabriel Attal, secrétaire d'État chargé de la jeunesse, a hérité provisoirement du dossier et il attend donc ce matin les premiers syndicats étudiants. La précarité étudiante est une dure réalité, voilà ce que dit Philippe Vendrix, il est président de l'université de Tours, délégué à la vie étudiante au sein de la conférence des présidents d'université. Il faut trouver des solutions, dit-il, mais dans le calme.
Il est temps de discuter sereinement et ouvertement de ce que sont les aides accordées aux étudiants, de leur mode de fonctionnement, de leur allocation, de ce qu'est le logement étudiant, de lui garantir des qualités d'accueil. Ce que souhaite n'importe quel président d'université, c'est que les étudiants se sortent non pas meurtris de leurs années à l'université, mais plutôt prêts à aborder une nouvelle expérience de vie. Mais la violence ne permettra pas de déployer des dialogues sereins, constructifs sur tous les sujets. Donc autant éviter toute violence.
Des propos recueillis par Justine Leclerc. Et parallèlement à cette colère étudiante, il y a aussi la fatigue des directeurs d'école, en maternelle cette fois. 2 mois après le suicide d'une directrice à Pantin, en Seine-Saint-Denis, le ministère annonçait hier 2 premières mesures. Jusqu'en décembre, les directeurs auront une journée supplémentaire pour être déchargés de classe. Et d'ici là, ils seront également dispensés de répondre aux enquêtes administratives du ministère. Des mesures à court terme, voilà ce que dit Laurent Hoffmann et il le regrette. Il est au micro d'Anne-Laure Jumet. Laurent Hoffmann préside le SNE, Syndicat National des Écoles.
La prise en compte de la difficulté au niveau de la direction de l'école est une bonne chose. Bon, par contre, il ne faut pas s'y tromper. Les premières mesures qui sont prises sont là pour alléger ou simplifier. C'est des mesures, alors, à court terme pour, disons, faciliter le quotidien des directeurs. Nous, ce qu'on revendique depuis longtemps, ce sont des mesures à long terme qui seraient plus des mesures structurelles sur, par exemple, l'obtention de temps de décharge supplémentaire, la reconnaissance spécifique d'un métier par la création d'un statut, et puis une revalorisation salariale en lien avec les missions. Et si vous voulez, on ne peut pas se contenter de ce qui est proposé là, même si ça va dans le bon sens, ce sont des mesurettes quand même. Par exemple, une journée supplémentaire de décharge allouée à tous les directeurs d'ici les vacances de Noël, bon, c'est symbolique, c'est bien, mais c'est symbolique, c'est-à-dire que ça ne va pas changer la donne.
Dans les hôpitaux publics, le personnel attend là aussi des mesures pérennes et structurelles. Une mobilisation nationale est prévue ce jeudi, alors que le gouvernement n'a toujours pas dévoilé son nouveau plan d'action. Nous y reviendrons dans le journal de 7h sur France Culture. Qui briguera la succession de Jean-Claude Gaudin à Marseille, côté Les Républicains? La droite ne s'est toujours pas mise d'accord, car 2 prétendants ne veulent rien lâcher. Il y a l'actuel président de la métropole, Martine Vassal, et le sénateur Bruno Gilles, ancien maire du 3e secteur de la ville. Une réunion était donc organisée hier au siège du parti Les Républicains à Paris en présence de Christian Jacob. L'idée était de départager ses prétendants, mais il n'y a eu aucune fumée blanche, Stéphane Robert.
Rien n'est réglé pour les Républicains à Marseille. Il y a toujours deux candidats aux élections municipales de mars 2020. La réunion qui s'est tenue hier au siège du parti n'a pas permis de trouver un accord malgré presque 2h30 de discussion. Autour des deux candidats à l'investiture, le nouveau président Christian Jacob avait invité le maire sortant Jean-Claude Gaudin, soutien de Martine Vassal, ainsi que l'actuel président de la région Sud, ex-région PACA, Renaud Muselier, qui lui soutient l'autre candidat, le sénateur marseillais Bruno Gilles. Chacun a exposé son point de vue. Martine Vassal a notamment mis en avant un sondage de l'Institut IFOP qui la donne assez nettement en tête des intentions de vote devant Bruno Gilles. En face, Renaud Muselier a fait valoir que, certes, Martine Vassal bénéficie d'une plus grande notoriété, mais qu'elle apparaîtra comme l'héritière de Jean-Claude Gaudin. Et vu que le bilan de la municipalité sortante est contesté, suite à l'effondrement de l'immeuble de la rue d'Aubagne l'an dernier, mais aussi avec la publication, il y a quelques jours, d'un rapport de la Chambre régionale des comptes qui épingle la mauvaise gestion de la municipalité sortante. Dans ces conditions, ont expliqué Bruno Gilles et Renaud Muselier, il apparaît risqué de désigner comme candidate Martine Vassal, qui fait figure d'héritière du système Gaudin. Au bout du compte, pas d'éclat de voix au cours de cette réunion, mais chacun est resté campé sur sa position, s'en remettant à une décision de la commission d'investiture, programmée le 27 novembre prochain.
Ce sera officiel ce matin. L'Allemagne entre en récession en ce troisième trimestre. L'Office fédéral des statistiques doit communiquer les chiffres de la croissance allemande. Une récession technique qui marque surtout la fin d'une décennie dorée et une remise en question du modèle allemand, David Philippot.
Avec le refroidissement de la conjoncture internationale et les tensions commerciales, l'économie allemande paye le prix de sa dépendance aux exportations. Même si, les économistes le soulignent, les fondamentaux sont bons, le chômage à 4,8% est au plus bas depuis la réunification et l'Allemagne présente cette année, c'est la cinquième fois consécutive, un budget en excédent. Pas de panique donc, les caisses sont pleines et l'annonce attendue d'un mauvais chiffre ne prend personne par surprise. Depuis un an, les commandes sont en baisse et la consommation des ménages ne parvient pas à soutenir la croissance. Comme une dépression automnale, le moral des investisseurs et des ménages est morose et c'est d'abord l'automobile, pilier lézardé dans un secteur en pleine révolution qui constitue la principale source d'inquiétude. L'équipementier Continental vient d'annoncer une perte sèche de 2 milliards d'euros en 3 mois, 5 000 emplois sont en danger et la menace de taxes douanières brandie par Donald Trump donne des sueurs froides aux constructeurs déjà distancés par l'américain Tesla et les Asiatiques dans la course à l'électrique. Et c'est d'ailleurs parce que l'automobile allemande, qui emploie 1 750 000 personnes, affronte des vents contraires que le gouvernement vient d'annoncer un grand plan d'investissement, 3 milliards d'euros en bornes de recharge et primes à l'achat. On verra si le mauvais chiffre attendu pousse les Allemands, comme le souhaite le gouvernement français, à délier davantage les cordons de la bourse.
Un témoin clé a décrit hier un Donald Trump obsédé par sa campagne de réélection au point de faire pression sur l'Ukraine. Ce témoin a été auditionné publiquement devant la Chambre des représentants outre-Atlantique, audition dans le cadre de l'enquête en vue d'une procédure de destitution du président américain. L'Égypte annonce un accord de cessez-le-feu ce matin dans la bande de Gaza. Cet accord intervient à la suite des efforts de l'Égypte, voilà ce que l'on nous dit. Et il a reçu l'aval des factions palestiniennes, incluant le djihad islamique. Ce matin, par ailleurs, l'armée israélienne a levé les mesures de protection des civils dans le sud-ouest du pays. Depuis mardi, les combats ont fait au moins 32 morts dans l'enclave palestinienne. Arrestations, tortures, menaces, embrigadement de force. Voici le calvaire des réfugiés syriens de retour chez eux, en Syrie, sous le régime de Bachar el-Assad. Ils témoignent auprès d'humanitaires et ils disent pour beaucoup vouloir repartir pour gagner l'Europe, Jérémy Lanche.
L'Association syrienne pour la dignité des citoyens a réussi à joindre près de 300 personnes. Leurs témoignages vont tous dans le même sens. Les deux tiers sont menacés ou ont un membre de leur famille menacé d'arrestation par les services de sécurité. Une même proportion dit avoir été extorquée par les autorités. Retourner dans les anciennes régions rebelles est particulièrement dangereux, selon Nader Othman, l'un des membres de l'association.
Ceux qui subissent les pires traitements sont ceux qui rentrent dans les zones où un accord de réconciliation a été passé avec le régime, comme dans la Route près de Damas. En général, les autorités les laissent tranquilles une semaine, et puis elles arrêtent les hommes. Ceux qui ont l'âge de faire l'armée sont immédiatement envoyés sur les zones de front les plus dangereuses. C'est comme si on les condamnait à mort.
Tous les retours ne sont pas volontaires. Cet été, Amnesty International a accusé le Liban d'avoir d'avoir forcé plus de 2500 Syriens à rentrer en Syrie. D'autres ONG pointent du doigt la Turquie qui réfute elle aussi ces accusations. Rentrer en Syrie ne serait pas seulement prématuré selon Nader Otman, ce serait aussi ouvrir les portes à un nouvel exil pour les Syriens.
These people have made up their mind they will never come back. They confess that they made a mistake.
Ceux qui sont rentrés le disent, ils ont fait une erreur et ils en sont désormais certains. Ils vont quitter la Syrie et ne jamais revenir. C'est le pire scénario pour l'Europe. Encourager les Syriens à rentrer dans leur pays aujourd'hui, étant donné les circonstances, c'est le meilleur moyen de parvenir à un désastre. Le nombre de personnes qui vont chercher à gagner l'Europe sera encore plus important.
L'Association syrienne pour la dignité des citoyens demande la fin des retours forcés et la création d'un mécanisme international de suivi pour garantir la sécurité de ceux qui souhaitent rentrer dans leur pays.
C'était un reportage de Jérémy Lange pour France Culture. Il y a un risque de neige et de verglas ce jeudi de la Seine-et-Loire jusqu'à l'Ardèche. Il va pleuvoir sur la partie sud du pays par ailleurs, sous des températures toujours fraîches. 5 degrés ce matin à Strasbourg et Lyon, 7 à Lille, 8 degrés à Paris et 13 à Marseille. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
À 6h40, c'est l'heure de votre journal des idées. Jacques, des militantes féministes ont perturbé l'avant-première du film de Roman Polanski, J'accuse, au cinéma Le Champeau à Paris mardi soir. Et le débat est ouvert sur la distinction entre l'homme et l'œuvre, mais aussi Jacques sur les cas de harcèlement dans le cinéma français.
Oui, je cite, lorsqu'un artiste ou une artiste est accusée d'agression à caractère raciste, et il ou elle disparaît de la sphère culturelle, observe Iris Bray dans Mediapart, comme si les violences sexuelles faites aux femmes étaient moins graves que le racisme. L'universitaire spécialiste, donc Iris Bray, spécialiste de la représentation du genre et des sexualités au cinéma, souligne que la vie personnelle des artistes est toujours évoquée. Alors, lorsqu'il s'agit d'une cinéaste femme, orientation sexuelle, choix d'être mère, et tous les sujets concernant l'intime pour parler de l'œuvre. Or, Polanski a lui-même établi le lien entre son film et sa vie personnelle, évoquant dans le dossier de presse son expérience de la persécution dans les affaires où des femmes l'accusent de viol, discréditant ainsi leur témoignage. Pourquoi est-ce que la parole d'une victime aurait moins de valeur que la présomption d'innocence, demande Iris Bray, qui relève à cet égard une évolution de la critique où ces affaires ont modifié la manière de réceptionner une œuvre. Elle cite le témoignage d'Adèle Haenel qui a fait sauter un cadenas dans l'imaginaire français. Et si les victimes ne mentaient pas, nous avons pris conscience collectivement qu'en détournant notre regard d'elle, nous participons à notre tour à cette culture du viol où les agressions sexuelles sont minimisées et banalisées. Elle rappelle qu'en France, une seule plainte sur 100 aboutit à une condamnation de l'agresseur. La plupart des femmes et d'hommes victimes d'agressions sexuelles ne portent pas plainte et les faux témoignages sont extrêmement rares. Adèle Haenel est à la une des Inrecuptibles. A-t-elle initié un MeToo français? Marie-Lou Duponchel et Olivier Joyard ont mené l'enquête dans le milieu du cinéma, jusqu'ici plus tenté par l'omerta et les rapports de domination. Pour l'actrice et réalisatrice Blandine Lenoir, le cinéma fonctionne par cooptation, les gens ont peur de ne plus travailler, alors on se tait et les agresseurs poursuivent leur chemin tranquille, comme c'est le cas dans tous les milieux d'influence et de pouvoir. La réalisatrice Léa Fener, qui a travaillé avec Adèle Haenel sur Les Ogres, estime qu'il faut aussi en finir avec l'image valorisée du réalisateur tyran. Ces modèles de fonctionnement, dit-elle, sur un tournage, ces histoires d'emprise, de relations troubles entre actrices et cinéastes, de violence, ce sont des récits qui ont été très majoritaires dans notre éducation au cinéma durant nos études. Et elle plaide pour un effort critique à cet égard dès la formation des futurs professionnels du cinéma. La justice nous ignore, on ignore la justice, expliquait Adèle Haenel pour justifier sa prise de parole médiatique et son refus de porter plainte. C'est l'autre aspect du dossier, son volet judiciaire. Fanny Marlier et Marie-Lou Duponchel rappellent dans Les Inrocs qu'en 2016, 73% des personnes mises en cause dans des affaires de violences sexuelles ont vu leur cas classé sans suite. Le dépôt de plainte, la qualité des enquêtes, les délais, les coûts. Après la libération de la parole, la plainte se transforme en dévoile un autre parcours du combattant pour les victimes. Suite au témoignage d'Adèle Haenel, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans par personne ayant autorité. Dans Marianne, Olivia Dufour, tout en comprenant la démarche de l'actrice, alerte sur les risques de ces tribunaux médiatiques et ersatz de justice. La juriste met en garde contre les risques d'une justice privée sur les réseaux face à la procédure contradictoire dans un prétoire douloureuse pour elle. Les victimes d'agressions sexuelles qui le peuvent sont tentées de recourir à ce type de procès populaire expéditif et l'on peut craindre alors de voir se développer un système de régulation de la société par le scandale. La journaliste reconnaît les insuffisances de la justice dans ce domaine, mais elle plaide pour la raison qui sous-tend son fonctionnement contre l'émotion à laquelle carburent les médias lorsqu'il s'agit de trancher en droit. Concernant Adèle Haenel, dit-elle, j'aurais compris qu'elle saisisse la presse en désespoir de cause car la justice n'aurait pas fonctionné. C'est d'ailleurs en général comme ça que ça se passe, mais là, c'est l'inverse. Reste qu'en l'occurrence, il s'agissait avant tout pour la comédienne de libérer la parole, la sienne et celle de toutes les victimes silencieuses dans son milieu professionnel, où les frontières entre consentement et emprise psychologique ont tendance à s'effacer dans l'engagement au service de l'œuvre, une situation difficile à appréhender en termes judiciaires. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux avec vous, Julie Gacon, bonjour.
Bonjour Jacques Munier.
Au sommaire aujourd'hui, les Irakiens disent leur refus de voir encore l'Iran peser sur les affaires nationales.
Oui, Iran bara, l'Iran dehors, peut-on voir sur des pancartes brandies par des manifestants irakiens, au même titre qu'America bara d'ailleurs, la remise en cause du système communautaire et politique dans le pays depuis un mois et demi maintenant, va de pair avec une remise en cause de l'ingérence étrangère, quelle qu'elle soit. Mais il est vrai que la critique de l'interventionnisme iranien est plus nouvelle, elle apparaît aussi dans les défilés au Liban, où le Hezbollah, financé, soutenu par l'Iran, est hué au même titre que les autres dirigeants du pays. Bonjour Adel Bakawan.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur du Centre de sociologie de l'Irak à l'université de Soran, donc en Irak, et auteur de L'impossible État irakien paru chez l'Harmattan. Il faut d'abord rappeler, Adel Bakawan, que l'influence de la République islamique, de l'Iran, sur les affaires courantes de l'Irak, on va rester en Irak ce matin, elle n'a pu réellement commencer qu'à la chute de Saddam Hussein, le sunnite Saddam Hussein, quand le pouvoir a échu aux chiites, en 2003, date fondatrice.
Oui, absolument, absolument. En 2003, lorsque les États-Unis d'Amérique arrivent avec le projet de la démocratisation de l'Irak, la chute de Saddam Hussein, la démocratisation de l'Irak, l'Iran entre... je parle un peu plus fort.
Il faut parler un tout petit peu moins près du micro, pardon.
D'accord. Merci. Très bien. L'Iran arrive avec un contre-projet, à savoir l'islamisation de la société irakienne. Et je dis bien l'islamisation de la société irakienne et non pas de la société chiite, la communauté chiite. Parce que tout simplement, l'Iran partage des frontières avec l'Irak, de Souleymaniyah au nord jusqu'à Bassora au sud. L'Iran partage également les chiites et chiites avec l'Irak, qui constitue à peu près 53% de la population. L'Iran partage les Kurdes, il a des Kurdes également, des deux côtés de la frontière avec l'Irak, qui constitue à peu près 20% de la population. Autrement dit, l'Iran a... tous les moyens culturels, religieux, politiques, économiques, militaires pour s'imposer sur la scène irakienne.
Alors quel relais, par exemple, si on les prend les uns après les autres, donc des milices chiites pro-iraniennes au sein de l'appareil sécuritaire irakien, le canal du clergé aussi est important. En Irak, le plus haut dignitaire chiite s'appelle l'ayatollah Ali Sistani. Est-ce qu'il a en Irak la même autorité que le guide suprême iranien Ali Khamenei?
Il faut nuancer à ce niveau-là. C'est vrai, Sistani est encore de nationalité iranienne, mais installé depuis 1952 à Najaf, en Irak, mais il a gardé toujours sa nationalité iranienne. En même temps, il n'appartient pas au même corpus idéologique. Par exemple, en Iran, vous avez ce qu'on appelle al-wilayat al-faqih, le pôle de... c'est-à-dire quoi, wilayat al-faqih? C'est un référentiel idéologique auquel on se réfère. Et ces décisions, ces fatwas sont une obligation individuelle pour les chiites qui appartiennent à cette idéologie. Par contre, Ayatollah Sistani n'adopte pas cette doctrine idéologique. Autrement dit, il y a une nuance idéologique très très forte entre les deux côtés de la frontière. Mais, bien évidemment, les deux s'inscrivent dans la même zone d'hégémonie, à savoir cette petite minorité qui s'appelle le chiisme à l'échelle international dans le monde islamique, mais fortement majoritaire en Irak et en Iran.
L'Iran aide financièrement aussi l'Irak. Est-ce que le régime iranien a encore, malgré notamment les sanctions américaines, les moyens de fournir ses pays alliés en capitaux?
L'Iran, si vous me permettez rapidement, les États-Unis d'Amérique, de George Bush jusqu'à Donald Trump, ne travaillent que sur les élites irakiennes, sur les élites qui dirigent ce gouvernement. En revanche, la République islamique de l'Iran travaille les structures, les infrastructures, et pour parler comme Karl Marx, et les superstructures de la société irakienne. Oui, l'Iran a les moyens pour financer les écoles, les centres culturels, les milices, comme vous l'avez si bien dit, à ce jour-là, nous avons 64 milices irakiennes qui ont à peu près, selon nos estimations, les estimations du Centre de sociologie de l'Irak, 163 000 combattants. 80% de ces milices dépendent idéologiquement à ce corpus, ce référentiel de Wilayat al-Faqih, c'est-à-dire ils reçoivent directement l'ordre de Ayatollah Khamenei et non pas de Sistani et non pas...
Mais d'ailleurs, il laisse faire Sistani, Ali Sistani, il laisse faire cette ingérence. Il n'y a pas une concurrence entre lui et le guide suprême iranien?
Bien évidemment, dans le champ religieux, il y a toujours ces rapports de force entre les clergés pour la domination dans le champ politique chiite. Mais Ali Sistani, en même temps, sait très très bien que c'est un référentiel, c'est un cadre idéologique qui s'est imposé à l'Iran, qui s'est imposé en Irak, qui s'est imposé au Liban, qui s'est imposé au Yémen, enfin dans plusieurs pays, et il ne peut rien faire. C'est-à-dire cette diversité théologique au sein du champ politique chiite a été intériorisée, acceptée par tout le monde.
Adel Bakawen, cette ingérence, les Irakiens qui manifestent la conspu, la dénoncent entre autres choses, le consulat iranien de Kerbala, cité Sainte-Chite a failli être incendié, ce qui est un signe révélateur de ces tensions. Est-ce que l'Iran s'est d'ailleurs prononcé officiellement sur cette crise sociale et politique? On le sent très réservé, alors que l'Iran se qualifie de régime révolutionnaire. C'est à l'issue d'une révolution que s'est mise en place la République islamique en 79.
Oui, absolument. Alors pourquoi l'Iran barra et un peu moins
dehors.
L'Iran dehors, mais un peu moins les États-Unis d'Amérique, un peu moins l'Arabie Saoudite, un peu moins la Turquie par exemple, parce que tout simplement ce pays fonctionne, comme je le dis depuis toujours, depuis 2003 à 2019, par les Iraniens, et les Iraniens ont partenariat implicite avec les États-Unis d'Amérique. Les Iraniens ont participé fortement à ces deux grandes pathologies de l'Irak, à savoir la milicisation de la société irakienne et la systématisation de la corruption. À ce jour-là, de 2003 à 2019, l'État irakien, 420 milliards de dollars partis en corruption. Le président de la commission anti-corruption lui-même nous dit personnellement, nous sommes tous corrompus en Irak, moi le premier. Autrement dit, aujourd'hui, vous avez un État basé sur ces deux critères, la milicisation et la systématisation de la corruption. En même temps, vous avez une base sociale abandonnée, frustrée, livrée à elle-même. Et selon notre dernière enquête, il y a 363 ans d'écart de salaire entre le haut de la société et le bas de la société. Et donc aujourd'hui là, vous avez cette base sociale chiites en révolte contre les élites chiites qui dirigent le gouvernement.
Adel Bakaouen, il y a une personne qui incarne cette influence de l'Iran sur l'Irak, entre autres, c'est le général Soleimani, Qassem Soleimani, le chef de la force Al-Quds, qui est l'unité d'élite des gardiens de la révolution, donc en Iran. C'est lui qui est aux commandes désormais, mais aux commandes de quoi? De la répression des manifestants ou de la réponse politique?
Les deux. Il est
physiquement en Irak.
Il est physiquement en Irak. Ils sont régulièrement en Irak. Bagdad, pour lui, c'est comme Téhéran. Soleimani, c'est comme Sanandaj. Bassoura, c'est comme. Autrement dit, l'Irak, c'est vraiment son territoire d'action, premièrement. Deuxièmement, la stabilisation et la sécurisation de l'Irak constitue une ligne rouge pour la sécurité nationale de l'Iran. L'Iran peut lever la main sur le Liban, sur Yémen, sur la Syrie, mais l'Iran ne peut pas abandonner l'Irak. Pourquoi ? Parce que tout simplement, l'Irak, économiquement, politiquement, militairement, et c'est dans les trois zones, les zones sunnites, les zones kurdes et les zones chiites, constituent cette ligne rouge. Je vous donne un exemple, et rapidement. 2014, lorsque l'organisation de l'État islamique attaque le Kurdistan irakien, le gouvernement régional du Kurdistan irakien, ce n'était pas les Européens ou les Américains qui ont sauvé le GRK, le gouvernement régional. C'était les Iraniens. C'est pourquoi Massoud Barzani remercie directement la République islamique de l'Iran et Qassem Soleimani en personne, parce que Qassem Soleimani, il était là physiquement à Erbil lorsque uniquement 13 kilomètres séparaient l'armée du calife et avec le gouvernement régional du Kurdistan. Là, les Irakiens et les Iraniens, ils sont intervenus pour sauver le GRK. Les Iraniens, ils sont intervenus pour sauver la zone, les zones sunnites. Les Iraniens, ils sont là pour protéger et gérer les zones chiites. Les Iraniens, ils veulent l'Irak dans son intégralité.
Et c'est pour ça que le général Soleimani a été considéré un temps comme le sauveur de Bagdad face aux assauts de l'État islamique. Aujourd'hui, il est conspué parce qu'il est aux commandes de la répression, avec des techniques de répression qui ressemblerait à celles qui ont eu cours en Iran lors du mouvement vert de 2009. C'est l'ancien ambassadeur François Nicolau qui le dit. Alors tous les chefs chiites, pour conclure, et là je ne parle pas des chefs religieux, tous les chefs chiites ne sont pas liés à l'Iran, à tel point que Moqtada al-Sadr, le chef de l'insurrection chiite en 2003 contre l'invasion américaine, longtemps faiseur de rois en Irak, aujourd'hui un peu plus remis en cause par le peuple irakien, il est allé jusqu'à appeler un rapprochement avec l'Arabie saoudite sunnite. C'est incongru, ça vous surprend?
Simplement, Moqtada al-Sadr, dans le champ politique chiite, représente une certaine idée du nationalisme irakien, une certaine idée de l'iraquicité, ce qui plaît aux Arabes, notamment à l'Arabie saoudite, qui met en place tous les mécanismes pour prendre de la distance, pour faire de la distance entre la République islamique de l'Iran et la République de l'Irak. Alors, dans ce contexte, Moqtada al-Sadr représente une sorte de perspective, un acteur crédible avec qui on peut traiter.
Merci beaucoup Adel Bakaouen d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée.
Bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture et le cinéma Majestic Bastille à Paris présentent les séances France Culture. Rendez-vous lundi 18 novembre à 20h avec les enfants d'Isadora, de Damien Manivelle, prix de la mise en scène au Festival de Locarno. Après la mort de ses deux enfants en avril 1913, la danseuse Isadora Duncan compose un solo intitulé « La mère ». Une mère y caresse et berce une dernière fois son enfant avant de le laisser partir. Un siècle plus tard, quatre femmes font la rencontre de cette danse bouleversante. Plus d'infos et réservations sur le site lesecransdeparis.fr. Chaque jour, à midi sur France Culture, Olivia Gesbert vous invite à sa grande table.
Toute l'actualité de la culture et des idées, à l'heure du déjeuner, des rencontres plaisir, des livres coup de cœur, des penseurs positifs et d'autres qui nous alertent, je vous attends en direct ou en podcast sur franceculture.fr.
Ce jeudi, le maître du roman noir américain James Ellroy mène l'enquête à Los Angeles. La tempête qui vient, dans la grande table avec James Ellroy, ce jeudi de midi à 13h30 et sur franceculture.fr.
Bonjour Guillaume Erner.
Bonjour Julie Gacco, bonjour à toutes.
Il est 6h57, c'est votre humeur du jour, une humeur qui peut nous rapporter gros si on a beaucoup d'amis. Et si vous vendiez vos amis?
Eh oui, pourquoi pas? Alors attention, hein, rien à voir avec un dilemme moral du genre vous êtes dans la résistance, vous êtes arrêté par la milice et on vous demande de vendre vos amis. Non, vendre ses amis, le sens de l'expression est désormais beaucoup moins héroïque en l'occurrence. Il s'agit de savoir si vous allez ou non utiliser l'une des applications qui est désormais proposée sur votre smartphone qui veulent vous permettre de manager vos camarades, comme nous l'explique le magazine américain The Atlantic. Alors l'expression, évidemment, de manager ses amis peut ressembler à un oxymore, comme si je vous proposais, je ne sais pas moi, de vous marier avec vos clients. Pourtant, les démarches sont assez semblables. Il existe depuis longtemps des logiciels appelés CRM, Customer Relationship Management, destinés aux vendeurs. Ce sont des logiciels qui conservent en mémoire l'historique d'une relation avec un client, combien de fois vous l'avez visité, qu'est-ce qu'il voulait, qu'est-ce que vous lui avez vendu, quand faut-il programmer un nouveau coup de fil. Eh bien, ces nouvelles applications amicales entendent faire exactement la même chose, donc avec vos amis, ça fonctionnerait à peu près comme suit. Et Julie, vous feriez un fichier avec tous vos copains, nom, date de naissance, préférence alimentaire, sont-ils à gauche ou au parti socialiste? Non, ça c'est une blague. Bref, vous créez une fiche par ami et l'algorithme se charge d'optimiser votre relation amicale. Il vous rappelle les anniversaires, souvent vous les oubliez.
Non, pas du... alors moi non.
Mais il peut aussi vous suggérer d'envoyer un petit SMS tous les 10 jours, une blague tous les mois. Un vrai programme win-win, gagnant-gagnant. Vous optimisez votre sphère amicale et l'application monétise vos amitiés. Une nouvelle frontière aussi, le marché des applications de rencontres est saturé. Pourquoi ne pas s'attaquer aux applications amicales? Alors si vous trouvez que c'est une perspective atroce, c'est que vous n'êtes pas suffisamment familier avec cette portion de la culture américaine popularisée par Dale Carnegie, qui, dans les années 30, a publié un best-seller « Comment se faire des amis » où, en lieu et place d'amis, il s'agit plutôt en fait de recruter des relations, de se faire un réseau pour réussir dans les affaires. Voilà une étape supplémentaire pour réussir en affaires, inviter les autres à monétiser leurs amis.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Et aujourd'hui, dans les matins, nous recevons l'artiste Christian Boltanski, puisqu'une rétrospective lui est consacrée au centre Georges Pompidou. J'ai décidé de m'atteler au projet qui me tient à cœur depuis longtemps, se conserver tout entier, garder une trace de tous les instants de notre vie, de tous les objets qui nous ont côtoyés. Voilà comment Christian Boltanski présente cette exposition. Il sera dans ce studio aux environs de 7h40. En attendant, il est 7h et je vous souhaite un excellent réveil.